VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
For my final address to this chamber, I don't want to just talk about next year. I want to focus on the next 5 years, the next 10 years, and beyond.
Pas seulement l'an prochain, mais je veux parler de dans 5 ans, pas dans 10 ans, mais même au-delà. C'est le président Barack Obama qui prononçait hier son dernier discours sur l'état de l'Union devant les deux chambres réunies du Congrès. Un discours, comme vous le voyez, axé sur l'avenir, puisqu'il ne veut pas seulement parler de l'an prochain, ni de 5 ans, ni de 10 ans, mais bien au-delà. Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 13 janvier 2016. Au micro, Idrissa Seydoudia, bonjour. Je suis en compagnie d'Anastasie Toudièche, qui a suivi ce discours. Nous ouvrons avec l'allocution de M. Obama. Anastasie, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à toutes et à tous.
Discours très suivi de Barack Obama.
Suivi aussi bien effectivement à la télévision que devant, pendant, dans le Congrès, plein à craquer, devant lequel Barack Obama, vous le disiez, a prononcé son ultime discours sur l'état de l'Union. Un discours qui a surpris par sa projection vers un futur qui dépasse le temps qui lui impartit à la Maison-Blanche. Vous l'évoquiez tout à l'heure en traduisant un extrait de son discours. Et par certaines annonces fortes, comme par exemple son offensive pour éradiquer le cancer aux États-Unis, une lutte contre cette maladie comparée à une nouvelle conquête de la Lune pour laquelle il a missionné son vice-président Joe Biden, dont le fils est mort d'un cancer du cerveau, d'un cancer au cerveau. En même temps qu'il a défendu ardemment, mais assez brièvement, ses réalisations, l'Obamacare, le mariage homosexuel, une embellie économique, le président a déployé un plan ambitieux en 4 points pour l'année qui lui reste au pouvoir. L'économie d'abord, après avoir affirmé avec force la place de l'Amérique au sommet de l'économie mondiale, Barack Obama a souligné les profondes mutations qui traversent le secteur. Des mutations entamées bien avant la crise de 2008, a-t-il jugé, et pour laquelle les Américains sont armés, pour peu qu'ils en appellent à la capacité d'adaptation qui fait l'ADN du pays. Autre point crucial, la sécurité des Américains face à la menace terroriste. Il faut à la fois la prendre au sérieux et relativiser la capacité de nuire des terroristes, a affirmé en substance le président américain. On l'écoute.
Both Al-Qaïda and now ISIL pose a direct threat to our people.
Les deux organisations, Al-Qaïda et l'État islamique, sont une menace directe pour notre peuple parce que dans le monde d'aujourd'hui, même une poignée de terroristes qui n'ont aucune considération pour la vie humaine, y compris la leur, peuvent causer beaucoup de dégâts.
L'Afrique aussi a été abordée, quoique brièvement, et sous l'angle de la maladie. Applaudi quand il a annoncé la fin prochaine de la propagation du virus VIH et du paludisme, le président est revenu sur l'action américaine dans la lutte contre Ebola, Barack Obama.
That's how we stop the spread of Ebola in West Africa.
C'est ainsi que nous avons arrêté la progression d'Ebola en Afrique de l'Ouest. Nos militaires, nos médecins et nos experts en développement ont mis en place une plateforme qui a permis aux autres pays de nous aider à vaincre l'épidémie.
Le président américain a terminé son discours par une adresse à ses concitoyens, les appelant à un sursaut civique. Il a bien entendu le besoin de changement et est prêt à mettre ses dernières forces dans la bataille. Mais ce changement doit être une exigence du citoyen américain aussi, on l'écoute.
But I can't do these things on my own. Changes in our political process.
Mais je ne peux pas faire ces choses de moi-même. Les changements dans notre processus politique ne sont pas simplement liés à qui est élu ou comment il est élu. Cela arrivera si et seulement si les Américains le veulent. Cela dépendra de vous. C'est cela le gouvernement du peuple, par le peuple.
Voilà Idrissa, ses supporters ont pu reconnaître l'allant de l'Obama des débuts, avec un regret qu'il a exprimé clairement toutefois, celui de n'avoir pas eu le temps ou la possibilité d'assainir le climat politique. Il parle évidemment des tensions assassines qui déchirent les républicains et les démocrates. Et en parlant des républicains, dans la traditionnelle réponse au président, prononcée cette année par Nikki Haley, gouverneur de l'État conservateur de Caroline du Sud, les républicains, tout en critiquant vivement la politique étrangère du président, ont aussi, sans le nommer, décroché de sévères piques à Donald Trump.
We must resist that temptation. No one who is willing to work hard, abide by our laws.
Dans cette période pleine d'anxiété, il peut être tentant de suivre les sirènes des voix les plus en colère. Nous devons résister à cette tentation, a lancé Nikki Haley, en précisant que toute personne qui veut vivre comme un Américain et en suivant les lois américaines ne devrait pas être inquiétée. Dans les tribunes du public étaient présentes plusieurs femmes musulmanes en hijab, invitées par des élus démocrates, ainsi qu'un réfugié syrien récemment arrivé aux États-Unis.
Eh bien, merci Anastasie. Nous reviendrons plus en détail, toujours avec vous, sur les temps forts du discours de M. Obama, avec des analyses de politologues dans la seconde partie de ce programme.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
L'ONU envisage trois scénarios, et maintenant nous abordons le reste de l'actualité. L'ONU envisage trois scénarios en cas de dérapage de la crise au Burundi, mais elle reconnaît dans un document interne ne pas avoir les moyens de protéger efficacement les civils si le pire se produisait, c'est-à-dire un génocide. Selon l'AFP, ce mémorandum confidentiel a été adressé au Conseil de sécurité de l'ONU par le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU, Hervé Latsou. Les précisions de Jean-Roger Bion.
Même si les casques bleus sont autorisés à utiliser la force pour se défendre et protéger les civils, explique M. Latsou, les Nations Unies sont mal équipées pour monter le type d'opération d'imposition de la paix qui pourrait être requis au terme du scénario 3, c'est-à-dire en cas de génocide. Dans un premier scénario, la violence reste sporadique et d'intensité relativement faible et un processus politique se poursuit, de même que des efforts pour déployer une force de l'Union africaine. Dans le deuxième scénario, la sécurité se dégrade de manière importante à Bujumbura et ailleurs. Il n'y a pas de processus politique crédible et la force africaine ne parvient pas à se déployer. Bujumbura s'oppose pour l'instant au déploiement de cette mission africaine de prévention et de protection au Burundi, Maprobu, forte de 5000 hommes. Le scénario 3 mène au génocide, violence à caractère clairement ethnique et de bien plus grande ampleur et intensité, avec la perspective de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et génocide.
Eh bien, concernant maintenant le Burkina Faso, notre confrère Bagassi Koura nous apprend que le Premier ministre Paul Kaba Tieba vient de former son cabinet de 29 membres. 5 femmes occupent des portefeuilles dans ce gouvernement, dont celui de l'économie et des finances. L'ancien maire Simon Compaoré est chargé de l'administration du territoire et de la sécurité. 2 journalistes sont dans ce gouvernement. Le journaliste Alpha Barry, promoteur de Radio Omega et le nouveau ministre des Affaires étrangères, et Rémi Dandjinou, ministre de la Communication, chargé des relations avec le Parlement. Les sankaristes, longtemps opposés au régime Compaoré, entrent dans le gouvernement, nous dit encore Bagassi Koura. En Angola, le procès de 17 opposants au régime du président José Eduardo dos Santos, qui devait se terminer jeudi, a été ajourné au 25 janvier. Chez Ruben Dorsil.
Les audiences ont été temporairement suspendues pour reprendre du 25 au 29 janvier, a expliqué Luis do Nascimento, l'un des avocats des accusés. Témoins sont attendus à la barre d'ici la fin du procès, mais seulement 2 se sont présentés lundi lors de la reprise des auditions et aucun ne s'est déplacé mardi. Les 17 militants accusés de rébellion et de tentative de coup d'État sont membres du mouvement révolutionnaire de l'Angola. Ils demandent le départ du président José Eduardo dos Santos au pouvoir depuis 1979. 15 d'entre eux ont été emprisonnés, mais sont maintenant assignés à résidence et 2 comparaissent libres. Ils nient tous les charges qui pèsent sur eux, assurant être des partisans d'une lutte pacifique. Ils risquent entre 3 et 12 ans de prison.
Une partie du camp démocrate a vivement critiqué hier le président Barack Obama après une vague d'arrestations de clandestins originaires d'Amérique centrale en vue de leur expulsion. C'était peu avant son discours sur l'état de l'Union. Les autorités américaines ont annoncé la semaine dernière avoir arrêté 121 adultes et enfants en situation irrégulière au Texas, en Géorgie et Caroline du Nord. Je reviens maintenant sur les équipages de deux navires militaires américains appréhendés hier par l'Iran qui les accuse d'être entrés dans ses eaux territoriales. Ils seront libérés tôt ce matin. C'est ce qu'ont annoncé des officiels de la défense à de multiples sources d'informations. La Minute Éco avec Chérubin Dorsil.
La Guinée-Bissau et le Sénégal négocient depuis hier à Bissau sur l'accord de gestion de la zone maritime commune aux deux pays et les règles de pêche qui s'y appliquent. Selon Jeune Afrique, ces échanges doivent à terme aboutir à la signature d'un nouveau protocole d'accord bilatéral couvrant un périmètre qui s'étend sur une superficie de 9 838 km² et dont les eaux, réputées poissonneuses, attirent aussi bien des navires de pêche industrielle que des embarcations de pêche traditionnelles. L'Agence de gestion et de coopération, instituée en 1995, est chargée de l'administration de la zone commune. En attendant l'aboutissement de ces nouvelles négociations, la durée d'application du protocole ayant expiré le 21 décembre, a été prorogé de 6 mois. Si vous vivez dans un pays africain dont l'économie dépend du pétrole, eh bien, préparez-vous à davantage de mauvaises nouvelles. Les cours du brut sont brièvement tombés hier à moins de $30 le baril en séance à New York, ce qu'ils n'avaient pas fait depuis décembre 2003, dans un marché toujours accablé par la surabondance et des incertitudes sur la demande. Le ministre nigérian des ressources pétrolières a appelé à un sommet anticipé des pays membres de l'OPEP début mars. Dans la deuxième économie d'Afrique, les infrastructures routières laissent beaucoup à désirer. En fait, rappelle l'AFP, les routes sud-africaines comptent parmi les plus dangereuses du continent. Plus de 1700 personnes y ont trouvé la mort pendant les vacances de fin d'année, soit une augmentation de 14% par rapport à la même période il y a un an, selon les chiffres officiels publiés ce mardi 12 janvier.
À présent, les sports avec Bagassi Koura. Bagassi, bonjour.
Oui, bonjour Idrissa.
En football, le défenseur des Corbeaux, Jean Kasusula, peut reprendre le jeu.
Oui, selon Foot Africa, il était indisponible depuis l'automne en raison d'une fracture au bras. Le défenseur latéral international congolais du TP Mazembe, Jean Kasusula, a été autorisé à reprendre l'entraînement, ce qui est un grand pas vers le retour à la compétition. Le latéral gauche profite de petits ateliers spécifiques pour se remettre en place après 2 mois d'arrêt, indique le club congolais sur son site officiel.
Corruption à la FIFA, nouvelle arrestation.
Oui, l'ancien président de la Fédération guatémaltèque de football, Brian Giménez, impliqué dans le scandale de corruption de la FIFA et dont les États-Unis demandent l'extradition, a été arrêté hier mardi. Giménez ainsi que 15 autres dirigeants latino-américains sont impliqués dans le cadre de l'enquête pour corruption au sein de la FIFA et blanchiment d'argent.
FIFA toujours, le débat télévisé entre les candidats à la présidence a été annulé.
Oui, ce débat télévisé était prévu le 29 janvier à Londres entre les 5 candidats à l'élection à la présidence de la FIFA le 26 février. Très décevant que ESPN doive annuler ce débat télévisé, a regretté hier le français Jérôme Champagne sur son compte Twitter. Selon l'AFP, un porte-parole de la chaîne américaine a confirmé que le débat n'aurait pas lieu. Nous avons invité les 5 candidats pour prendre part à un débat et on a fait tous les efforts possibles pour envisager avec eux toutes les options logistiques possibles. En fin de compte, nous n'avons pas eu les engagements nécessaires pour produire un programme fidèle à nos standards, a expliqué la chaîne américaine ESPN.
Mario Balotelli, de retour sur le terrain.
Il n'avait plus joué depuis fin septembre à cause d'une pubalgie ou la douleur au pubis. Il pourrait faire son retour avec l'AC Milan ce mercredi même en Coupe d'Italie. Selon l'entraîneur du club Sinisa Mihalovic, Balotelli a été opéré en novembre. L'attaquant italien prêté par Liverpool n'a porté que 4 fois le maillot du Milan cette saison et n'a plus joué depuis le 27 septembre.
8e de finale de la Coupe du Roi en Espagne.
Le FC Séville, écrasant vainqueur du Betis Séville 4-0 dans le derby sévillan, s'est qualifié hier pour les quarts de finale de cette Coupe du Roi. De son côté, le Deportivo La Corogne a été éliminé par Mirandes, club de 2e division, après sa défaite 3-0. Et puis enfin, Idrissa, pour terminer, quelques résultats du championnat de basketball nord-américain.
Indiana 116, Phoenix 97, San Antonio 109, Détroit 99, New York Knicks 120, Boston 114, Houston 107, Memphis 91, Milwaukee 106, Chicago 101, Oklahoma City
101, Minnesota 96 et Cleveland 110, Dallas 107.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous retrouvons Anastasie Toudiech pour nous parler encore du discours sur l'état de l'Union prononcé hier soir par le président Barack Obama devant les deux chambres réunies du Congrès.
Oui, Idrissa, et j'ai demandé à trois personnes de suivre plus particulièrement et plus attentivement pour nous ce discours. Alors, nous allons commencer avec René Lake, analyste politique. Pour lui, il faut saluer la capacité de projection du président américain, dont il loue par ailleurs le bilan africain. Écoutez-le.
Écoutez, la première chose que je retiens et qui m'a beaucoup impressionné, c'est le côté un peu visionnaire du président Obama. Visionnaire au sens où il s'est beaucoup focalisé sur le futur de l'Amérique. Alors c'est assez étonnant parce que bon, pour un président qui est en fin de mandat, on s'attendait plus à ce qu'il insiste surtout sur le côté bilan, surtout que de mon point de vue, il a eu une présidence qui a été tout à fait exceptionnelle, qui a été transformatrice, je crois, de l'Amérique. Bien entendu, les républicains diront peut-être transformatrice, pas de manière positive.
Dans cette projection dans le futur qui effectivement peut surprendre, quels sont les points qui vous ont paru les plus étonnants ou qu'il faudra suivre de près ?
L'initiative la plus importante, et je pense que c'était peut-être de son point de vue l'information la plus importante, c'est l'initiative qu'il a annoncée par rapport à la lutte contre le cancer. Autre point que j'ai trouvé très intéressant, a été la question de l'énergie renouvelable. Et c'était intéressant parce qu'il a mis dans le contexte de la problématique de réchauffement climatique, mais il y avait également la question économique, pour montrer que l'énergie renouvelable est porteuse de grands espoirs, de grands investissements pour les États-Unis et pour le reste du monde.
Oui. Et l'Afrique alors, il en a assez peu parlé au fond ?
Oui, il a juste fait trois petites références. La première, c'est le rôle que les États-Unis ont joué dans l'installation de l'infrastructure de base dans la lutte contre l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Et c'est vrai que l'Amérique a joué un rôle central, sinon le rôle principal de mise en place des infrastructures dans les pays affectés par Ebola. Il a également fait référence indirectement à son programme Feed the Future, un programme alimentaire. Et il a également annoncé qu'on était très proche de l'éradication de la progression du VIH et du paludisme.
On n'a pas eu le sentiment qu'il y avait une volonté pour l'année qui reste au président Obama d'un dialogue face à face avec le continent qui, au fond, est noyé dans les pays qui doivent se prendre en main.
Je suis d'accord avec vous si on ne part que de ce discours. Mmh. Mais ce discours est un discours à la nation américaine. J'ai une liste de tout ce que Obama a fait pour l'Afrique. Je pense que c'est absolument remarquable. Mais je crois qu'il y a encore d'autres initiatives qui vont être annoncées dans le courant de l'année. Mais je ne crois pas que c'était le lieu pour lui de le faire, parce qu'ici, son audience, elle est essentiellement une audience américaine. Et c'est vrai que l'Afrique, c'est quand même relativement marginal par rapport aux préoccupations des Américains.
René Lake, analyste politique et directeur du site internet cneplus.com. Pour Émile Baroudi, qui lui est journaliste libanais, le discours de Barack Obama est sans équivoque quant au terrorisme, tout en évitant les amalgames. Son analyse.
Il était très clair. Pour lui, Daesh ne menace pas les États-Unis, mais elle menace la vie de citoyens américains. Il garde cet aspect terroriste de Daesh. Il ne la compare pas à vraiment un État qui pourrait mettre en danger l'État des États-Unis. Il a aussi rappelé que l'État islamique veut faire croire qu'ils peuvent détruire les États-Unis. Il les a remis un peu à leur place en les accusant de vouloir se faire les représentants de toute une religion. Il a rappelé aussi les actions militaires que les États-Unis prennent actuellement contre Daesh. Le bombardement aérien des zones pétrolières, l'entraînement de forces locales pour reprendre du terrain à Daesh, que ce soit en Syrie ou en Irak. Et même, il a un peu défier le Congrès. S'ils n'aiment pas ce qu'il fait, s'ils trouvent que c'est insuffisant, ils n'ont qu'à autoriser l'utilisation de la force militaire. Mais il a aussi rappelé que, au-delà de Daesh, c'est l'instabilité de certains pays, au Moyen-Orient surtout, qui pourraient devenir eux-mêmes des bouillons de culture pour des mouvements terroristes. Et aussi, il a parlé des famines ou des guerres civiles qui pourraient causer des vagues de réfugiés aux portes des États-Unis ou même aux portes de l'Europe.
Et il a parlé.
Et il a aussi rappelé que les États-Unis ne pouvaient pas s'occuper de aller occuper tout pays ou être le gendarme du monde. Il a invité à une interaction entre toutes les forces internationales pour pouvoir faire quelque chose. Il a donné comme exemple le nucléaire iranien. Il n'a jamais caché sa volonté de fermer Guantanamo. Personnellement, je doute qu'il puisse faire quelque chose dans cette année qui lui reste.
Troisième panéliste, troisième analyste, Rachel Decoste, elle est canadienne, activiste et contributrice au Huffington Post. Elle a reconnu dans le tribun au Congrès le Barack Obama du Yes We Can.
Je pense que les Américains savent aujourd'hui qu'ils ont fait des erreurs en envahissant le Vietnam dans les années 60-70 et la guerre en Irak qui leur a coûté plusieurs vies et beaucoup d'argent. Et ils ne sont pas prêts à se relancer pour aucune raison dans une autre lancée guerrière. Et puis en même temps, Obama a fait appel aux politiciens de ne pas réduire leur discours à l'islamophobie et le racisme.
On a vraiment senti là qu'il rendait coup pour coup à Donald Trump.
Mais je pense que Donald Trump est avisé. Et puis il y a beaucoup d'autres républicains qui font le même discours. Effectivement, je pense qu'il veut rappeler les Américains leur passé, leur culture, leurs valeurs d'égalité et surtout de respect dans la diversité qui fait la force du pays. C'est vraiment revenir aux sources. Mmh. On se rappelle du début de la campagne d'Obama, son slogan c'était « Yes, we can ». Oui, nous pouvons. Je pense que c'est comme ça que les Américains sont tombés en amour avec lui. C'est quand il parlait d'une Amérique forte, une Amérique unie, une Amérique où les citoyens ont un pouvoir, un devoir de faire leur possible pour changer les choses, de ne pas s'attendre à ce que le président le fasse lui-même. Il a dit ça, je pense, même dans son discours d'ouverture quand il a été nommé président. Donc vraiment, c'est un retour à ce qu'il a toujours dit. Il peut faire son possible, mais c'est en réunissant tous les Américains qu'il peut réaliser ses objectifs. Donc pour moi, c'était vraiment un retour à ce qu'il a dit à ses débuts.
Voilà Idrissa, ce que je peux en dire, c'est que qu'on soit supporter de Barack Obama ou plutôt qu'on n'ait rien de bon à dire de sa politique, ce discours n'a pas laissé indifférent et marquera les esprits vraisemblablement.
Merci beaucoup Anastasia Toudiech.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ailleurs dans le monde, la constitution de la RDC aura 10 ans en février. Un groupe de Congolais opposés à sa modification ou à son changement lance une campagne de sensibilisation. Eddie Sango a joint l'un des animateurs du groupe, la coalition des Congolais pour la transition, Eleter Omari.
La constitution qui a été adoptée à plus de 80% de la majorité des Congolais doit continuer. Mais M. Kabila, lui, en tant que garant de la constitution, il est entré. Il a violé cette constitution à plusieurs reprises. Et maintenant, il est en train de préparer la mort de cette constitution en organisant un faux dialogue pour continuer à se maintenir au pouvoir. Et nous, en tant que la CCT, nous nous insurgeons en faux contre ce dialogue pour dire que M. Kabila, la majorité du peuple congolais, de la population congolaise, dit non à ces dialogues, comme la classe politique congolaise. Mais M. Kabila, il veut utiliser la force pour détruire cette constitution. La raison fondamentale de cette campagne contre les dialogues organisés par M. Kabila et sa famille politique.
Que faites-vous concrètement dans votre campagne?
Dans notre campagne qui sera lancée le 18 janvier à partir de la province du Nord Kivu à Goma, il est question de sensibiliser la jeunesse, les peuples congolais d'une manière générale pour leur montrer pourquoi la CCT dit non au dialogue, pourquoi la CCT dit non aux élections organisées par M. Kabila. Puisque la CCT, étant donné la situation très catastrophique et dégradante au niveau de notre pays, la souffrance de notre peuple, la CCT se dit qu'il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'on arrive à une transition qui va préparer les élections libres et démocratiques, qui va donner lieu à une nouvelle république avec les normes démocratiques.
N'avez-vous pas peur d'être mis en prison parce que le président Joseph Kabila a lui-même menacé. Tous ceux qui ne veulent pas aller au dialogue et qui menacent de faire des ordres. Il y a aussi le procureur général de la République qui a réitéré les mêmes menaces.
Nous connaissons très bien que le dialogue organisé par M. Kabila égale la mort de tout cela qui fait ce dialogue. Mais nous, peuple congolais, nous disons ceci. Dans 15 ans de pouvoir de M. Kabila, le peuple congolais a enregistré un bilan catastrophique après la Deuxième Guerre mondiale de plus de 10 millions de morts en République démocratique du Congo. Nous nous disons, on aura peur d'être emprisonné jusqu'à quand? On aura peur d'être assassiné jusqu'à quand? On se dit, qui veut la paix? Prépare la guerre. Nous, nous voulons la paix et par conséquent, cette paix a un prix. Le prix de cette paix, c'est l'emprisonnement, c'est l'assassinat. Nous nous disons que c'est aujourd'hui ou à jamais.
C'était Eleuther Omari, secrétaire général de la coalition des Congolais pour la transition. Au Burundi, des centaines de femmes citadines vivant grâce au commerce ambulant dans les différentes ruelles de la capitale Bujumbura font tout pour joindre les deux bouts, malgré l'insécurité qui perdure depuis plus de 8 mois. 3 d'entre elles y ont déjà perdu la vie et une trentaine ont été blessées par les jets de grenades en plein centre-ville. Mais pour citer notre correspondant Christophe Kurundiza, ces braves dames continuent à lutter pour nourrir leur famille.
Tout près du boulevard de l'Indépendance, derrière les stades héléniques, plus d'une vingtaine de femmes étaient le matin leurs marchandises composées de tomates, fruits et légumes dans une ruelle pavée. Sur place, une de ces vendeuses, Evelyne Nahima, a 32 ans, arrive sur un tricycle motorisé connu sous le sobriquet à Bujumbura de Bajaj ou de Tuk Tuk, en panier rempli de légumes.
Normalement, je me réveille tous les jours à 5 heures du matin. Ensuite, je me dirige vers le marché appelé Kwasi Oni pour acheter nos produits avant que les autres acheteurs n'arrivent. Ensuite, je me dirige vers cette ruelle pour vendre. De temps à autre, nous découvrons des cadavres dans la rue en se dirigeant en ville, mais également nous entendons des coups de feu. Ce n'est que Dieu qui nous protège. Une fois, quand j'étais au marché chez Sioni pour acheter des produits, il y a eu beaucoup de coups de feu. Je me suis roulé par terre et j'étais blessé. J'avais peur avec mes babouches. J'ai même couru sans ma panne pour sauver ma vie.
À côté d'Evelyne se trouve une autre femme qui habite un quartier contestataire, qui vend des fruits, mère de 4 enfants et se rend quotidiennement sur cette ruelle pavée pour gagner un peu d'argent pour sa famille. Surtout que son mari n'a pas aujourd'hui de travail, cette femme est obligée de se battre pour la survie de sa famille malgré l'insécurité.
Quand il y a des tirs, nous fuyons tout simplement en allant derrière nos marchandises pour sauver ainsi nos vies. Mais quand les tirs se calment, nous revenons sur place pour vendre en attente d'hypothétiques clients. S'il y a des clients, ils achètent nos marchandises. S'il n'y en a pas, nous rentrons à la maison. Nous, les femmes, nous avons des problèmes de sécurité, mais nous n'avons pas peur car nous faisons un choix entre la vie et la mort. À la maison, les enfants nous demandent à manger. Alors on est obligé de rester et de vendre malgré l'insécurité.
Ces femmes travailleuses se comptent par milliers dans les rues de Bujumbura et de l'intérieur du pays. Dans un pays où chaque habitant vit avec moins de 1 dollar par jour, elles apportent du réconfort dans les nombreuses familles qui ne parviennent pas à en manger 2 fois par jour. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur les opérations de maintien de la paix de l'ONU en Afrique. Aujourd'hui, plusieurs missions en Afrique sont qualifiées d'échecs alors que les allégations de viol se multiplient contre des casques bleus. Mais Hervé Latsou, le patron de ce département, est d'avis que beaucoup d'Africains ont retrouvé grâce aux Nations Unies la perspective d'une vie meilleure. Qu'en pensez-vous? Les missions de paix onusiennes ont-elles encore leur légitimité en Afrique? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h30.
Salut les amis, ici Roger Montou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débat. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Montou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, en direct de Washington, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.